Nous lisons ce matin dans l'évangile de Matthieu, au 11e chapitre, quelques-uns des premiers versets, quelques-uns des derniers versets, écoutez seulement. Or, Jean le Baptiste, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya à Jésus demander par ses disciples « Es-tu celui qui vient ou attendons-nous quelqu'un d'autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit. » Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui qui n'aura pas été piégé à cause de moi. Je passe quelques versets. Et alors Jésus se mit à fulminer contre les villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazin ? Malheureuse es-tu, Bethsaïda ? Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que, sous le sac et la cendre, elles se seraient converties. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi bien je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Et tout à coup, à cet instant, Jésus reprit. Je confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu l'as dévoilé aux très petits enfants. Oui, Père, c'est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils le dévoilera. Venez auprès de moi, vous tous qui peinez, surchargés par le fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis serein et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Oui, mon joug est doux et mon fardeau léger. Nous allons chanter. Au 273, les deux premières strophes, « Ton regard est sur moi » et « On se lève, s'il vous plaît ».
Ton regard est sur moi. Dieu, bon Dieu, secourable, révélant ta ma foi, ton amour admirable, tu fais grâce aux coupables, dont l'esprit est en toi, ton regard est sur moi, ton regard est sur moi, ton regard est sur moi, ô Dieu puissant.
Seigneur, me voici devant les saintes Écritures. Elles sont devant moi en toutes choses, l'accusateur et le juge de mes passions. Envoie sur moi ton Saint-Esprit pour que leur dureté ne justifie jamais ma propre violence et pour que leur douceur ne justifie jamais ma propre complaisance. Oui, Seigneur, envoie sur moi ton Saint-Esprit, j'en ai besoin, pour que jamais je ne me justifie moi-même, pour que jamais ne me fasse défaut de ne compter que sur ta grâce, et que jamais ne me quitte l'étonnement de te connaître et d'être sauvé. Amen. Ainsi donc, pour ne relire maintenant qu'un seul verset, « Cela fut caché aux intelligents et aux sages et dévoilé aux très petits enfants » et nous nous demandons « Mais qu'est-ce que cela ?» Eh bien, cela ne peut être dévoilé, affirme Jésus. Je n'opérerai pas devant vous quelque dévoilement que ce soit. Si d'ailleurs l'on cherchait à donner de cela une formulation qui soit accessible aux intelligents et aux sages, ce ne serait plus de cela dont nous parlerions. Alors tout au plus, peut-on espérer rendre compte d'un mouvement de dévoilement et repérer un chemin qui, peut-être, se révélera praticable. Alors demandons-nous d'abord, si le monde est partagé entre les intelligents et les sages d'un côté et les très petits enfants de l'autre. Supposons-le même un instant. Nous pouvons le supposer, parce que nous sommes tous ici en possession de moyens intellectuels et sans doute aussi d'un certain nombre d'éléments de sagesse. Mais devrions-nous abdiquer et régresser pour nous approcher de Jésus, par exemple, ou pour nous approcher de Dieu, et en revenir à cet état ancien qui nous vit dans la toute belle pureté du premier âge, nous consacrer exclusivement ou presque à notre alimentation et à notre sommeil? Est-ce là la voie de la sainteté? Eh bien, prêcher ceci reviendrait à récuser l'intelligence et la sagesse. Et j'affirme qu'une prédication qui récuse l'intelligence et la sagesse est étrangère à l'Évangile. Alors l'Évangile, certes, interroge radicalement certains visages, certains mésusages de l'intelligence et de la sagesse. Mais l'humanité n'a jamais eu besoin d'adeptes décérébrés. Et elle n'a pas non plus besoin de gourous. Alors nous avons supposé un instant que le monde pourrait être partagé entre les intelligents et les sages d'un côté et les très petits enfants de l'autre, et nous écartons cette supposition. Nous l'écartons aussi parce que le texte lui-même ne nous permet pas de la maintenir. Car dans la bouche de Jésus, il n'y a pas un principe intangible, mais une sorte d'exclamation. Comme il est écrit, et à cet instant, soudain, Jésus reprit. On pourrait même oser traduire par « et à cet instant, Jésus se reprit ». Tout comme on dit parfois à une personne qui s'égare, s'emporte ou déraille, « mais enfin, reprends-toi, reprenez-vous ». Jésus donc se serait-il égaré ? Un moment d'égarement pourrait-il arriver à sa divine personne ? Ah ! Blasphème ! Blasphème, et pourtant nous allons suivre cette piste, celle d'un moment d'égarement de Jésus. Car voyez-vous, la doctrine ne doit jamais précéder la lecture, et le texte est là juge de nos passions. Alors lisons les versets qui précèdent celui par lequel nous avons commencé notre méditation, et demandons-nous sérieusement ce qui s'y joue. Jean le Baptiste, donc, envoie demander ceci à Jésus. Es-tu celui qui vient ou attendons-nous quelqu'un d'autre? Alors Jean est emprisonné et ne lui parviennent sans doute que des rumeurs. Et ceux de ses propres disciples qu'il envoie vers Jésus sauront bien le rassurer. Mais nous devons interroger la question de Jean-Baptiste. Car lui qui a prophétisé une venue s'enquiert de la réalisation littérale de sa propre prophétie. Il veut savoir, oui ou non, si Jésus est bien cet homme dont il a prophétisé la venue. Alors bien entendu, à Jean-Baptiste, on fera crédit de sa réclusion, mais on va se demander quand même sérieusement si la satisfaction d'un prophète tient à la réalisation littérale de ses prophéties. Car voyez-vous, la question que pose Jean le Baptiste ressemble fort à ce genre de question que se posent ceux qui, ayant donné longtemps le meilleur d'eux-mêmes au service de l'Évangile, se demandent soudain si, par malheur, ils n'auraient pas œuvré pour rien, et qui espèrent donc un réconfort, peut-être, ou une sorte de récompense. Alors, oui ou non, es-tu celui dont j'ai annoncé la venue ? Demande Jean le Baptiste. Et Jésus ne tombe pas dans le piège du oui ou du non. Il ne répond pas « oui, je suis celui que tout le monde attend », mais il répond sur des actes et sur une prédication. Il répond sur un engagement qui certes est le sien propre, mais qui pourrait et qui peut toujours être l'engagement d'autres que lui, notre engagement. Alors oui, Jésus est celui qui vient, c'est sans doute la leçon de l'évangile de Matthieu, mais tant qu'il y aura des aveugles, des boiteux, des lépreux, des sourds, des morts et des pauvres, Jésus est celui qui vient, celui qui doit venir, et les œuvres du Christ demeurent toujours à accomplir. Les œuvres du Christ auront à être accomplies par les humains tant que le monde durera. Mais retenons pour l'heure de Jean-Baptiste qu'il cherche, dans une correspondance des prophéties et des faits, à vérifier la pertinence de son propre ministère. Oui, bien sûr, prophétiser n'est pas prédire, mais certains dérapent parfois. Or, la quête, voire l'exigence d'une correspondance littérale entre des prédictions et des faits, c'est l'un des visages possibles de l'intelligence, et pas le plus beau. Quant à la sagesse, qui produit à partir d'observations des énoncés probables, on pourra dire aussi que l'exigence d'une correspondance littérale entre les énoncés et les faits est l'un des visages possibles de la sagesse, mais pas le plus beau non plus. Jean le Baptiste, avec sa question, se comporterait-il momentanément comme l'un de ces intelligents et sages qui énoncent, qui prédisent, qui exigent et ne font pas grand-chose ? Eh bien, le réel de la vie ne doit rien à la sagesse des sages ni à l'intelligence des intelligents. Le réel de la venue du Christ ne doit rien aux prophéties des prophètes, ni aux doctrines des théologiens, ni aux dogmes des églises. Et la prédication chrétienne ne peut jamais dire « il vient comme ceci et pas autrement ». Elle ne peut que proclamer « il vient » et mettre concrètement en œuvre ce qu'elle proclame. Alors la question finalement que pose Jean le Baptiste traduit-elle un moment d'égarement ? Eh bien l'hypothèse mérite qu'on ne l'écarte pas trop vite, surtout lorsque la fin de la réponse de Jésus est celle-ci « heureux celui qui n'aura pas été piégé à cause de moi ». Piégé. Heureux énonce Jésus donc celui qui ne s'immobilise pas, qui ne s'arrête pas sur un nom, une chapelle, un texte, un dogme. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur les visages toujours provisoires de la vérité. Heureux celui qui prêche, qui témoigne, qui baptise, qui donne sans s'arrêter à aucune condition et considération de vérification, à aucune validation par le grand nombre, à aucun retour sur investissement. Heureux. Heureux celui pour qui tout ce qu'il reçoit est grâce et tout ce qu'il donne est don. Il ne sera piégé ni à cause de Jésus le Christ, ni à cause de rien d'autre. Avec cette réponse, vous voyez que Jésus se montre lucide et sans concession sur ce qu'il en est de la question de Jean le Baptiste. Mais lucide, il l'est beaucoup moins s'agissant de lui-même. Car comme vous l'avez entendu quelques versets plus loin, se trouve dans la bouche de Jésus de terribles propos. Il s'en prend à tous ses contemporains, collectivement. Il s'en prend à des villes entières, collectivement. Et voyez-vous, là où Abraham défendit toute une ville pécheresse devant Dieu pour la raison que peut-être quelques justes y demeuraient encore, Jésus condamnerait des villes entières au motif que quelques pécheurs y auraient subsisté. Ah. Dans ces villes, Jésus a accompli des miracles. Oui. Et alors ? So what ? En quoi des miracles obligent-ils les habitants de ces villes ? La prédication de l'Évangile oblige-t-elle en quoi que ce soit celui qui l'entend ? Le prédicateur, le témoin de l'Évangile, le Christ lui-même, peuvent-ils exiger de ceux auxquels ils s'adressent qu'ils approuvent en adhérant massivement? Je vous laisse la réponse. Mais je dis moment de faiblesse, moment d'égarement, moment bien humain que celui que traverse ici Jésus, un moment que connaissent tous ceux qui, dans quelque domaine que ce soit, donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et pour quel résultat ? Qui se consacre ici sérieusement à des enfants, à des ados, à des détenus, à des drogués, à des élèves de tous les âges ? Qui se consacre à ses sœurs et frères en Église ? Bourrique, va. Qui se consacre à tout cela comprend de quoi je parle. Et à certains moments, tout semble caché, et l'inertie des gens et l'indifférence du monde appellent parfois de bien terribles propos. C'est ainsi. Et puis soudain, ça passe. Et à cet instant, soudainement, Jésus reprit : Je confesse, Père, Seigneur du ciel et de la terre, que tu as caché cela aux sages et aux intelligents et que tu l'as dévoilé aux très petits enfants. Jésus reprend, Jésus se reprend. Il confesse d'un coup sa foi en Dieu, Seigneur du ciel et de la terre. Et oui, si ce qu'il entreprend doit avoir une suite, cela appartient à Dieu. Il confesse en quelque manière son égarement, son inutile ambition, ses exigences démesurées, et il s'en détourne. Il se reprend en tant qu'homme, et il se redonne en tant qu'homme et en tant que Christ. Intense soulagement, dévoilement pour lui et pour nous. Car la foi en Dieu seul, l'insouciance de soi dont il fait montre en cet instant, fonde pour nous toute libre adhésion possible. Jésus passe donc, et l'on peut passer derrière et avec lui. On peut passer du côté de ceux qui reçoivent sans avoir demandé, du côté de ceux qui donnent sans rien exiger. Dans ce passage d'ailleurs, on n'abdique rien de son intelligence et on ne renie rien de sa sagesse. Mais on laisse derrière soi l'idée qu'on a raison d'être ce qu'on est et on laisse derrière soi l'idée que ceux à qui l'on donne nous doivent quoi que ce soit. On donne parce qu'on a choisi de donner, et le devenir de ce don ne nous intéresse plus. Et voyez-vous, on ne fait pas ainsi de ce qu'on a choisi soi-même de porter une charge pour autrui. Jésus ne le fait pas, ne le fera plus lui-même. Et ainsi son joug est-il doux, bienfaisant et léger. Et voilà l'engagement le plus profond qui est là, et voilà avec lui une certaine forme d'insouciance, une insouciance de soi qui est la marque de la grâce la plus belle. Frères et sœurs, puisse cela nous arriver. Amen.